السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي التوفيق، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. Amma ba'd. Nous sommes le 8 Ramadan 1446 de l'égir du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, correspondant au 8 mars 2025, et nous voici, après avoir passé un tiers déjà, pratiquement, de ce mois béni de Ramadan. Espérons d'Allahu Azza wa Jal qu'il accepte nos œuvres, nous pardonne nos fautes, nous accorde en cet instant une science utile et des actions pieuses qui rapprochent de lui, subhanahu wa ta'ala. Qui est l'allié d'Allah? Voici le titre de cette conférence, qui est un sujet important, une question à laquelle tout musulman doit trouver la réponse. Il en est ainsi car le musulman doit dans cette vie, dans cette terre sur laquelle Allah Azza wa Jal l'a fait vivre et dans laquelle il l'a créé, d'être un allié d'Allah au quotidien, proche d'Allah, observant ses ordres, délaissant ses interdits. Il est aussi important de comprendre l'erreur phénoménale dans laquelle sont tombés beaucoup de gens lorsqu'ils définissent l'allié d'Allah Azza wa Jal en lui attribuant des caractéristiques qui ne lui reviennent absolument pas. Il est donc nécessaire de revenir aux sources du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam afin de découvrir qui est l'allié d'Allah Azza wa Jal. Et sans nul doute, l'un des meilleurs textes nous montrant qui est l'allié d'Allah Azza wa Jal est un hadith Qudsi. Un hadith Qudsi, c'est-à-dire une parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous est rapportée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce hadith Qudsi est rapporté par l'imam al-Bukhari d'après Abu Hurayra. Ce qui va suivre est donc la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais elle n'est pas dans le Coran. C'est l'une des différences entre ce qui est appelé al-hadith al-Qudsi et al-Qur'an. Tous deux sont des paroles d'Allah azza wa jal. Mais ce qui est appelé al-hadith al-Qudsi a des différences avec le Coran. Al-Hadith al-Qudsi, c'est ce que le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam rapporte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est donc une parole qui est imputée à Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui n'est pas comme le Coran, car le Coran est décrit comme étant mu'jiz, c'est-à-dire que le Coran défie ses détracteurs, alors que le hadith al-Qudsi, lui, ne joue pas ce rôle. Le Coran, lorsque nous le lisons, nous recherchons par cette lecture les récompenses d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend qu'à chaque lettre récitée du Coran, ce sont 10 bonnes actions qui nous sont inscrites. Alors que le hadith al-Qudsi, lorsqu'il est lu, il n'y a pas de récompense spécifique à sa lecture. Certes, il y a une récompense lorsque le hadith Qudsi est lu en vue d'apprendre sa religion. C'est donc la récompense de l'apprentissage de la religion dont il s'agira. Le Coran, lorsqu'il est lu, la lecture même apporte une récompense. Indépendamment du fait que si on essaie d'apprendre le Coran, de l'étudier, on est également récompensé. Également, Al-Hadith, Al-Qudsi, comme on l'a dit, vient bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sans plus tarder, l'imam al-Bukhari rapporte d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna Allah ta'ala qal man aada li waliyan faqad aadhantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. Allah est le Très-Haut a dit « Quiconque se fait l'ennemi d'un de mes alliés, alors je lui déclare la guerre. Et mon serviteur ne s'est jamais rapproché de moi par quelque chose qui me soit plus aimé que ce que j'ai rendu obligatoire. Ensuite, mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actions recommandées jusqu'à ce que je l'aime. Ainsi, lorsque je l'aime, je deviens son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main par laquelle il attrape, sa jambe par laquelle il marche. Et assurément, s'il me sollicite, je lui donnerai ce qu'il m'a demandé. Et s'il cherche protection auprès de moi, alors je le protégerai. » Ce hadith-là a été décrit par les ulamas, les savants de l'islam, comme étant l'un des récits qui nous décrit le plus l'allié d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous allez le comprendre avec le développement qui va suivre. Incha'Allahu azza wa jal. L'imam Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, illustre savant de l'islam, a dit dans son commentaire de ce hadith: wa qad qila innahu ashraf hadith ruwiya fi dhikr al-awliya. Il fut certes dit que ce récit est le plus noble en matière de la mention des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, le plus noble, parce que il contient de très grandes sagesses, comme vous allez le voir et l'entendre plus tôt, incha'Allahu ta'ala. Premièrement, Allahu Azza wa Jal nous donne dans ce récit une information grandiose. Inna Allah ta'ala qal man aada li waliya faqad aadhantuhu bil harb. Quiconque se fait l'ennemi d'un de mes alliés, alors je lui déclare la guerre. Allahu Akbar. Ce qui te montre la grandeur des alliés d'Allah et la haute place qu'ils occupent, la grande proximité qu'ils ont avec Allah subhanahu wa ta'ala, au point où quiconque se fait ennemi de l'un d'entre eux, alors qu'il sache qu'Allahu Azza wa Jal lui a déclaré la guerre. Le Cheikh Atiyah Muhammad Salim, rahimahullahu ta'ala, nous dit que les passages dans lesquels on retrouve dans les textes qu'Allah subhanahu wa ta'ala annonce qu'il déclare la guerre à des pécheurs sont au nombre de trois. Premièrement, il y a ce récit du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vient d'Allah Azza wa Jal. Man aada li waliya, quiconque se fait ennemi d'un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Deuxièmement, ceux qui mangent l'usure, ceux qui tirent profit des intérêts. Al-riba. Allah Azza wa Jalla a dit: fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allah. Et si vous ne cessez pas, si vous n'appliquez pas cet ordre de délaisser les intérêts, l'usure, alors recevez l'annonce d'une guerre de la part d'Allah. A'oudhou billah. Qu'Allah nous en préserve. Troisièmement, les brigands de la route qui pillent les biens des voyageurs, qui leur spolient leurs biens et qui les dépouillent. Ceux qui sèment la terreur sur terre, Allah Azza wa Jal les a décrits. إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا. En parlant de la rétribution qu'il leur a accordée. Qu'est-ce qu'il dit? Ceux qui font la guerre à Allah et son messager et qui sèment la corruption sur terre. Le Cheikh Atiya Salim a dit: الَّذِينَ يُخِيفُونَ النَّاسِ وَيَقْطَعُونَ الطُّرُقُ فَاللَّهُ هُوَ الَّذِي يُحَارِبُهُمْ لِمَذَا لِعِظَمِ جَرِيمَتِهِمْ. Ceux qui sèment la terreur au sein des gens et qui font les brigands de la route, Allah est celui qui leur déclare la guerre. Pourquoi? En raison de la gravité de leurs péchés. Fin de citation. On comprend donc qu'il y a trois péchés particulièrement dont la gravité est extrême chez Allah Azza wa Jal. Le premier que l'on a cité, c'est celui qui fait l'objet de notre étude. C'est-à-dire qu'Allah déclare la guerre à celui qui se fait ennemi d'un des alliés d'Allah Azza wa Jal. Le second, manger l'usure. Le troisième, le fait de semer la corruption, le trouble, la terreur sur terre et de spolier les biens des gens. Ainsi, on voit qu'il s'agit de quelque chose d'extrêmement grave que d'être l'ennemi d'un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors la question suivante se pose: s'il en est ainsi, qui est l'allié d'Allah? Quelles sont ses caractéristiques? Comment pourrait-on le reconnaître? Et c'est là que, justement, la réponse vient, incha'Allah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous répond à cette question. Dans surat Yunus, il nous enseigne qui sont ses alliés. Ceux qui réunissent en eux deux caractéristiques. Allah azza wa jalla a dit: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. Dans le sens rapproché, n'est-ce pas que les alliés d'Allah n'ont aucune crainte à éprouver ni tristesse? Comme s'il fût dit: mais qui sont-ils alors? Comment pourrait-on faire pour faire partie de ces gens qui ne craindront rien ni ne seront tristes? La suite du verset nous le dit. Ceux qui ont eu la foi et qui ont fait preuve de piété. Voici les deux caractéristiques qui, lorsque tu les appliques, tu deviens bel et bien un allié d'Allah Azza wa Jal, qui que tu sois, où que tu sois. Je répète, qui que tu sois, où que tu sois. Parce que beaucoup de gens ont pensé que les alliés d'Allah ont atteint un rang qui n'est pas accessible à quiconque parmi les gens. Ils se sont donc mis à exagérer sur des prétendus saints, des prétendus pieux, en les décrivant comme étant très proches d'Allah, se fermant ainsi la porte à eux-mêmes, de se rapprocher d'Allah et d'en devenir, subhanahu wa ta'ala, les alliés, cette conception est complètement fausse, complètement erronée, comme vous allez le comprendre, incha'Allah ta'ala, avec ce qui va suivre. Mais dis donc un peu ce qu'Allah nous dit dans ce verset. Il nous décrit qu'ils sont ceux qui ont eu la foi, alladhina amanu wa kanu yattaqun, et qui ont fait preuve de piété. Qu'est-ce que la foi, al-iman, et qu'est-ce que la piété, al-taqwa? Premièrement, al-iman. Ce mot-là, l'ange Jibril alayhi salam est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam sous la forme humaine, comme on le retrouve dans le récit relaté par l'imam Muslim. Lorsque Jibril, alors sous une apparence humaine, demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce que la foi, le prophète alayhi salatu wa sallam lui répondit en lui énumérant les six piliers de la foi. Al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers. Al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La foi au jour dernier et la foi au destin, que les choses destinées par Allah soient pour nous bonnes ou mauvaises. Ce sont donc les six piliers de la foi. L'allié d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelqu'un qui a les caractéristiques de la foi en lui. Il a d'abord une conviction pleine, ferme en Allah subhanahu wa ta'ala. Il connaît son Seigneur par ses noms et attributs. Il n'adore que Allah Azza wa Jal. Il ne se soumet dans sa servitude et son adoration qu'à Allah seul et sans associé. Car il a appris à connaître Allah Azza wa Jal par sa seigneurie. La seigneurie, c'est un terme qui désigne toutes les choses que seul Allah est capable de faire. La création, donner la vie, la mort, gérer tout ce qui se passe, faire tomber la pluie, guérir le malade, répondre à l'invocation, guider ou égarer selon sa sagesse, accorder la récompense, bénir et accorder l'abondance de la subsistance, toutes ces choses-là représentent ce qu'on appelle la seigneurie d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. L'allié d'Allah reconnaît à Allah sa seigneurie et sait que personne ne la partage avec Allah. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla a dit Ya ayyuhan nas udhkuru ni'matallahi 'alaykum. Ô vous les gens, rappelez-vous du bienfait d'Allah sur vous. Hal min khaliqin ghayru Allah yarzuqukum min as-sama'i wal-ard? Existe-t-il en dehors d'Allah, un créateur vous octroyant la subsistance du ciel et de la terre? Voyez, Allah Azza wa Jal enracine dans le cœur du croyant cette conviction pleine en la seigneurie d'Allah que nul autre que lui ne peut partager avec lui. L'allié d'Allah a bien compris cela. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a appliqué ce qui en découle. Car toute personne ayant la conviction en la seigneurie d'Allah Azza wa Jal ne va adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, cet allié d'Allah est celui qui n'invoque qu'Allah, qui ne sollicite qu'Allah Azza wa Jal, celui qui demanderait à un autre qu'Allah ce que seul Allah est capable d'accorder, ne pourrait en rien être un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le mot « wali » que l'on traduit par « allié » vient à la base du terme appelé « walaya » ou « al-wilaya » et ce que l'on appelle l'alliance. Et ce terme lui-même signifie, linguistiquement parlant à la base, al-qurb, la proximité. Si par exemple dans les rangs de la prière, Sadiq est à côté de Ali, on va dire Sadiq yali Aliyan, c'est-à-dire qu'il est à côté de Ali, il est proche de lui. L'allié d'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a une proximité avec son Seigneur, Azza wa Jal, une proximité spécifique, particulière, parce qu'il accomplit les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme vous allez le voir, insha'Allah ta'ala. Donc, cet allié d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a appliqué cette foi en Allah qu'il a, cette connaissance d'Allah azza wa jal qu'il a, de ses noms, de ses attributs. Et c'est ça qui l'a rapproché d'Allah au point d'en faire un allié. Tout le monde peut donc être un allié d'Allah. Et chacun est allié d'Allah proportionnellement à sa mise en application de sa foi, al-iman. Tout d'abord, al-iman ou billah, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, avec tout ce que cela implique, comme soumission pleine, comme dévotion, comme servitude, manifestée pour Allah uniquement, à travers l'adoration, ce lien fort entre Allah et sa créature, subhanahu wa ta'ala. Et la foi en tout ce en quoi Allah nous demande d'avoir foi, subhanahu wa ta'ala, ses anges, ses livres, ses messagers, le destin, le jour dernier. Plus tu développes cette foi en cela, plus tu deviens allié d'Allah Azza wa Jal, si tu accompagnes avec cela la deuxième caractéristique des alliés d'Allah, qui est at-taqwa, qui est at-taqwa, que l'on traduit d'habitude approximativement par la piété. Le mot taqwa, dans le sens linguistique, signifie al-wiqaya, la prémunition. La taqwa, c'est donc le fait de se prémunir de quelque chose que l'on redoute ou dont on craint le mal ou les conséquences. Je parle du sens linguistique. Quand on parle du mot taqwa dans la religion, alors le mot taqwa a été défini par Talq ibn Habib, un tabi'i connu, rahimahullahu ta'ala, qui a été interrogé lorsque les troubles arriveront. Que nous conseilles-tu de faire? C'est-à-dire, comment réagir face aux différents troubles? Il répondit, appliquer la taqwa. On lui demanda, et qu'est-ce que la taqwa? C'est là qu'il dit, taqwa Allah, amalun bi ta'atillah, ala nourin min Allah, tarju thawab Allah. La taqwa, c'est d'œuvrer dans l'obéissance à Allah, avec une lumière émanant d'Allah, espérant la récompense d'Allah. Wa tarku ma naha Allah an ala nourin min Allah khifatan 'adabillah, et que tu délaisses ce qu'Allah t'a interdit par crainte envers lui avec lumière émanant d'Allah. Avec lumière, c'est-à-dire avec science. Que tu accomplisses tes obligations avec science et que tu délaisses tes interdits avec science. Et tout cela, tu le fais en espérant la récompense d'Allah et en redoutant son châtiment, subhanahu wa ta'ala. De manière générale, c'est donc l'obéissance à Allah. Et on l'appelle taqwa parce que, avec cette obéissance-là, justement, on met entre Allah et nous une protection. On se prémunit contre son châtiment, contre son courroux, contre sa malédiction. Pour être l'allié d'Allah Azza wa Jal, Il faut donc avoir la conviction accompagnée des actions. La conviction, la foi en Allah seul, subhanahu wa ta'ala, sans associé. Accompagnée des actions, d'appliquer ses ordres, de délaisser ses interdits et de le faire avec savoir, avec connaissance, tout en espérant sa récompense et en craignant son châtiment. Plus tu appliqueras cela, plus tu seras allié d'Allah, plus tu seras proche de lui, subhanahu wa ta'ala. Cette définition-là, c'est Allah qui nous la donne. الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Ceux qui ont eu la foi. Ceux qui ont eu la foi et qui ont fait preuve de piété. On voit clairement, comme l'a dit Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah, من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. Quiconque est, quiconque a la foi et la piété sera allié d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est ça l'allié d'Allah. Contrairement à ce que beaucoup pensent, beaucoup croient malheureusement dans bon nombre de pays, lorsqu'ils disent que l'allié d'Allah, al-wali, c'est quelqu'un qui a des capacités surnaturelles, c'est quelqu'un qui a eu un jour des miracles dans sa vie, ou quelqu'un qui a des dons spirituels, quelqu'un qui est capable de guérir, quelqu'un qui nous entend au moment où je m'adresse à vous. Et c'est très souvent malheureusement des personnes qui sont sous la terre, mortes, enterrées. On les prend pour des alliés. On va jusqu'à voyager vers elles pour les solliciter en dehors d'Allah pour nos différents besoins. C'est gravissime. Parce qu'en agissant ainsi, la personne a commis le pire des péchés. Ashirku billahi azza wa jal. Elle a voué le culte à un autre qu'Allah azza wa jal. Et combien cela existe très malheureusement. Et on a vu des gens se comporter avec des créatures comme on doit se comporter avec Allah seul. On a vu des gens faire des actes d'adoration, des prosternations, des invocations pour des créatures, mortes ou vivantes. On les a vues se frotter à des pierres, prétextant qu'elles renferment en elles la guérison à nos maladies, la bénédiction. On les a vues invoquer des personnes, prétextant que ces dernières ont la capacité d'élever leurs demandes auprès d'Allah, car ils disent « Nous ne sommes pas pieux, nous ne sommes pas assez proches d'Allah, nous avons honte de présenter toutes nos demandes à Allah. Nous décidons donc de passer par tel allié d'Allah qui va jouer de sa proximité avec Allah pour faire monter à lui notre demande ainsi. » Elle sera susceptible d'être entendue et acceptée d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est le pire des péchés que de prononcer une telle parole ou d'adhérer à une telle conviction. C'est gravissime, parce qu'Allah nous a prescrit son adoration et son invocation, et nous a informé qu'il est proche de celui qui le sollicite et qui lui demande de ses besoins. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ Qu'ils répondent donc à mon appel et qu'ils aient foi en moi. Ainsi seront-ils bien guidés. Solliciter un autre qu'Allah est la pire des choses. C'est pire que de tuer quelqu'un, péché extrêmement grave. Quand on sollicite un autre qu'Allah, Azza wa Jal, on annule l'essence même de la foi. On coupe le lien avec Allah Azza wa Jal. On a vu des mosquées de nos propres yeux qui ont été construites dans des pays avec le carrelage, le marbre le plus cher au monde, dans lesquels les gens se rendent disant que dès lors qu'ils sont allés à cet endroit accomplir un prétendu pèlerinage n'ayant aucune source bien sûr dans l'islam authentique, dans l'islam originel, ils se retrouvent dispensés du pèlerinage à la Mecque. Certains ont été jusqu'à dire que lorsqu'il y a un besoin et que vous allez le porter dans la tombe de tel et tel allié, alors il vous répondra, car il a avec Allah la clé de vos besoins. Il décide avec Allah, wal'iyadhu billah. Quelle perversion! Ces gens-là ne sont en rien musulmans. Le musulman est celui qui a une conviction pleine en Allah seul, subhanahu wa ta'ala. C'est ça être musulman. Croire en Allah seul, croire en la puissance d'Allah azza wa jal, en sa capacité à octroyer la subsistance, au fait qu'il est le seul ayant droit à l'adoration, c'est lui l'allié d'Allah. Ne soyez pas trompés quand on vous dit que l'allié d'Allah est une personne spécifique et que c'est un domaine qui n'est pas pour vous accessible. Loin de là. Lorsque tu as la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et que tu appliques ses ordres et ses interdits, tu deviens un allié d'Allah à la hauteur de ta soumission à lui. Tout musulman est allié d'Allah. Sauf qu'il y a des disparités entre chacun dans cette alliance qu'ils appliquent envers Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur allié d'Allah. Abu Bakr radiyallahu anhu est un allié d'Allah au rang en dessous de celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un savant de l'islam est un allié d'Allah. Un croyant fidèle dans la mosquée est un allié d'Allah. Mais leur degré d'alliance n'est pas le même. Alors plus tu es l'allié d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus Allah te rapproche de lui, plus il te protège. Et dès lors qu'il te protège, alors la suite du hadith te dit فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ. Quiconque se fait ennemi d'un de mes alliés, alors je lui déclare la guerre. Allah Azza wa Jal déclare la guerre à quiconque se fait ennemi d'un des alliés d'Allah. Parce que les alliés d'Allah, il est un devoir de les aimer et d'en être également allié. Il faut être l'allié des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala et de les aimer parce qu'Allah lui-même subhanahu wa ta'ala les aime. Et cela te montre la grandeur de l'allié d'Allah subhanahu wa ta'ala, à tel point où Allah subhanahu wa ta'ala le protège. Il le protège lorsque quelqu'un décide d'être son ennemi. Faites donc attention aux musulmans à être un ennemi d'un allié d'Allah Azza wa Jal, à être ennemi de quelqu'un qui s'efforce d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, à tourner en dérision les actions d'un allié d'Allah qui ne fait qu'appliquer les ordres et délaisser les interdits d'Allah Azza wa Jal. Faites très attention à cela. Ne vous moquez jamais de quelqu'un pour sa soumission à Allah Azza wa Jal ou son prophète sallallahu alayhi wa sallam, car vous risqueriez de l'avoir pris en ennemi. Et lorsque vous prenez en ennemi un allié d'Allah Azza wa Jal, alors vous avez Allah qui est ennemi de vous, subhanahu wa ta'ala. Comme s'il fut dit, et alors comment devenir cet allié d'Allah? Allah Azza wa Jal dit tout de suite après dans le même récit وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. Et mon serviteur ne s'est pas rapproché de moi par quelque chose qui me soit plus aimé que ce que j'ai prescrit, ce que je lui ai rendu obligatoire. C'est la base. La base dans les bonnes actions, c'est d'accomplir les obligations et ne pas commencer par des bonnes actions qui ne sont pas obligatoires, des bonnes actions qui sont recommandées, nawafil, mustahabbat. Allah Azza wa Jal nous enseigne que la base, c'est d'accomplir les obligations. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi, et mon serviteur ne s'est jamais rapproché de moi, bishay'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu 'alayh, par quelque chose qui me soit plus aimé que ce que je lui ai rendu obligatoire. Tes 5 prières avant celle-ci, l'attestation de foi, tes 5 prières, ton jeûne de Ramadan, ta zakat, ton pèlerinage, ce sont les actions les plus recommandées, les plus obligatoires. Elles doivent passer avant les autres. Et c'est là qu'on voit l'erreur de beaucoup de gens qui font passer parfois des actions non obligatoires, bien qu'elles soient méritoires et recommandées, devant des actions obligatoires. Ainsi, par exemple, nous sommes dans le mois de Ramadan. Les 5 prières sont obligatoires au quotidien. On voit des gens qui ne viennent pas à la mosquée, les hommes, qui ne viennent pas à la mosquée pour les 5 prières obligatoires, mais qui viennent pour prier al-Tarawih. Alors que Salat al-Tarawih, ce sont des prières recommandées, méritoires, mais non obligatoires. Ces personnes-là auraient dû venir à la prière obligatoire en priorité. C'est pour ça que le Cheikh Abdul Aziz Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, a été jusqu'à dire que le fait de faire passer les actions recommandées, méritoires, mais non obligatoires, devant les actions obligatoires, min alamat al-shar, c'est un des signes du mal. Pourquoi? Parce que la personne est égarée. Tu vois des gens qui donnent des sadaqat, ils donnent des aumônes, mais ne s'acquittent pas de zakat ul-mal, de l'aumône légale, de laquelle chaque musulman, remplissant ses conditions, doit s'acquitter. Ils donnent des sadaqat, mais ils ne donnent pas zakat ul-mal. Tu vois des gens qui font des prières peut-être surérogatoires et qui négligent les prières obligatoires. Ça, c'est une grave erreur. Il faut commencer par les actions obligatoires. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّ افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi, c'est-à-dire après avoir accompli les actions obligatoires. Par les nawafil, nawafil ce sont les actions recommandées, méritoires. Hatta uhibba, jusqu'à ce que je l'aime. Tu fais les actions obligatoires, qui sont aimées par Allah Azza wa Jal, puis tu les fais suivre par les actions méritoires jusqu'à être aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui l'allié d'Allah. L'allié d'Allah, c'est justement celui qui accomplit les actions obligatoires et qui atteint un degré encore plus haut dans son alliance lorsqu'il applique les actions qui sont recommandées. Ainsi, on voit dans ce hadith Qudsi qu'Allah Azza wa Jal a divisé ses alliés en deux catégories. Comme l'a dit l'imam Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, فَقَسَّمَا أَوْلِيَاءَهُ الْمُقَرَّبِينَ قِسْمَيْنَ. Allah a divisé ses alliés qui lui sont rapprochés en deux catégories. أَحَدُهُمَا مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيْهِ بِأَدَاءِ الْفَرَائِضِ. Ceux qui se sont rapprochés de lui par l'application des obligations. وَيَشْمَلُ ذَلِكَ فِعْلَ الْوَاجِبَاتِ وَتَرْكَ الْمُحَرَّمَاتِ. Et cela englobe d'observer les obligations et de délaisser les interdits. Ça, c'est le premier degré. Ceux qui appliquent les obligations à la lettre, strictement, et qui délaissent les interdits, ceux-là sont des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont la première catégorie. La deuxième, qui est celle qui est la plus élevée, وَالثَّانِي مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيْهِ بَعْدَ الْفَرَائِضِ بِالنَّوَافِلِ. Ceux qui se rapprochent d'Allah Azza wa Jal après les obligations par les actes méritoires recommandés. Donc, ils ont fait les obligations, puis ils ont fait suivre ces obligations par d'autres actions aimées d'Allah, légiférées par Allah de manière recommandée, des sunnas du prophète alayhi salatu wassalam. Ibn Rajab rahimahullah a dit فَظَهَرَ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَا طَرِيقَ يُوَصِّلُ إِلَى التَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ وَوِلَايَتِهِ وَمَحَبَّتِهِ سِوَى طَاعَتِهِ الَّتِي شَرَعَهَا عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم. De là, on voit clairement qu'il n'y a aucun moyen menant à se rapprocher d'Allah et à accéder à son alliance et son amour autre que son obéissance dans ce qu'il nous a prescrit à travers la voix de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le seul moyen d'être un allié d'Allah. Lui obéir, suivre son prophète sallallahu alayhi wa sallam, en commençant par les obligations et en les faisant suivre par les actions recommandées. فَمَنِ ادَّعَى وِلَايَةَ اللَّهِ وَمَحَبَّتَهُ بِغَيْرِ هَذَا الطَّرِيقِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَاذِبٌ فِي دَعْوَاهِ. Quiconque prétendrait avoir une alliance avec Allah et être aimé d'Allah en suivant une voie différente de celle-ci, on verra clairement son mensonge dans cette prétention. Ibn Rajab dit « كَمَا كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَتَقَرَّبُونَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِعِبَادَةِ مَنْ يَعْبُدُونَهُ مِنْ دُونِهِ. » Comme les polythéistes premiers qui prétendaient se rapprocher d'Allah en réalisant des actes de culte, d'adoration qui étaient voués à autre qu'Allah Azza wa Jal. Comme Allah Azza wa Jal a dit dans sourate Az-Zumar, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ. Ceux qui ont pris en dehors de lui, qui est lui? Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qu'ils disent ces gens-là? مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Ces gens-là disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah davantage. Il s'agit de gens qui prennent des intermédiaires dans leur culte entre eux et Allah. Ils veulent se rapprocher d'Allah en allant adorer autre que lui, prétextant que ces autres ont un degré d'alliance avec Allah si fort qu'ils sont capables de les rapprocher d'Allah Azza wa Jal. En réalité, ces gens-là n'ont fait que les adorer en dehors d'Allah. Ils sont polythéistes. Et on ne peut être allié d'Allah que quand on lui obéit. Et le pire des péchés est le shirk, de vouer une adoration à un autre qu'Allah. Comme les gens du livre qui ont dit « Nahnu abna'ullahi wa ahibba'u » Nous sommes les enfants d'Allah et ses bien-aimés. Alors que ces gens-là, qui prétendaient être enfants et bien-aimés d'Allah, wal'iyadu billah, comme nous le dit l'imam Ibn Rajab, « Ma'a israrihim ala takdhibi rusulih wa irtikabi nawahih » Ils ont cette prétention tout en continuant à démentir ses prophètes et commettre ses interdits, wa tarki fara'idi, et délaisser ses obligations. Falidhalika dhakara fi hadha al-hadith an awliya Allah 'ala darajatayn. Et pour cela, dans ce récit, nous voyons que les alliés d'Allah sont de deux catégories. Ahaduhuma al-mutaqarribuna ilayhi bi ada' al-fara'id. Premièrement, ceux qui se rapprochent d'Allah Azza wa Jal en accomplissant strictement les obligations. Comme on l'a dit, cela implique l'accomplissement des obligations et le délaissement des interdits. Ce degré-là, il a un nom dans l'islam. Ibn Rajab nous dit « وَهَذِهِ دَرَجَةُ الْمُقْتَصِدِينَ » Ce degré est le degré des économes. On les appelle « الْمُقْتَصِدِينَ » Ceux qui se contentent d'accomplir leurs obligations et de délaisser les interdits d'Allah Azza wa Jal ont un degré qui est « دَرَجَةُ الْمُقْتَصِدِينَ » Le degré des économes. Pourquoi les économes ? Parce qu'ils se contentent des obligations. Ils n'ajoutent rien à cela comme action méritoire ou commandée. Ces gens-là sont ashab al-yamin, les gens de la droite, les gens du paradis, comme nous dit l'imam Ibn Rajab, ashab al-yamin. Ibn Rajab dit « Wa ada'u al-fara'id afdalu al-a'mal » L'accomplissement des obligations fait partie des meilleures actions. Comme a dit Omar ibn al-Khattab radiyallahu an, afdal al-a'mali ada'u ma iftarada Allah wal wara'u amma harrama Allah wa sidqu an-niyyati fi ma 'inda Allah. Omar radiyallahu anhu a dit, la meilleure des actions, c'est d'accomplir les actions prescrites, obligatoires, et de délaisser ce qu'Allah a interdit avec une véracité dans ton intention. Omar ibn Abd al-Aziz rahimahullah a dit dans une de ses khutbah, afdalul ibada ada'ul fara'id. La meilleure des adorations, c'est l'accomplissement des obligations wajtinabul maharim et le délaissement des interdits. Wa dhalika li anna Allah 'azza wa jalla innama iftarada 'ala 'ibadihi hadhihi al-fara'id li yuqarribahum minhu. Il en est ainsi, car Allah Azza wa Jal n'a prescrit à ses serviteurs ses actions obligatoires que pour les rapprocher de lui et faire en sorte que son agrément et sa miséricorde leur reviennent de droit. Fin de citation. Ça, c'est le premier degré. On l'appelle ça Darajatul Muqtasidin. Le degré des économes. Ils sont des gens qui se contentent des obligations et du délaissement des interdits. Mais il n'y a pas que chez les alliés d'Allah Azza wa Jal. Il y a ceux qui, en plus des obligations, font aussi les actions recommandées. On les appelle as-sabiquna bil khayrat, les devanciers dans le bien. Les devanciers dans le bien. ceux qui ont devancé les autres. Pourquoi? Parce qu'ils en ont fait davantage. Ils ont respecté leurs 5 prières quotidiennes, auxquelles ils ont ajouté d'autres prières dans la journée, dans la nuit. Ils ont respecté l'accomplissement du jeûne du mois de Ramadan, auquel ils ont ajouté les 6 jours de Shawwal, le jeûne du lundi et du jeudi, le jeûne de Ashura, de Arafat, les 3 jours de par mois, les jours blancs, et ainsi de suite. Ils ont respecté le fait de s'acquitter de l'aumône chaque année, et en plus de cela, ils ont dépensé aussi. Ils ont appris de leur religion ce qui leur était obligatoire de connaître, et après cela, ils ont approfondi leur apprentissage. Ces gens-là ont devancé les autres dans le bien. Et ce sont ces deux catégories qui sont énoncées dans ce texte et qui font partie des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les serviteurs d'Allah azza wa jal, de manière un peu plus vaste, se divisent en 3 catégories. Nous avons vu ces deux-là, al-muqtasidun, les économes, was-sabiqun bil-khayrat, les devanciers dans le bien. Il y a une 3e catégorie dans cette communauté de l'islam qui est al-zalimu li-nafsi, celui qui s'est causé du tort, qui a causé du tort à sa personne. Je vous propose tout d'abord d'écouter le verset où Allah Azza wa Jal dit dans Surat Fatir: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. Je vais prendre plus le verset d'avant. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. Et ce que nous t'avons révélé du livre est la vérité, attestant de la véracité des livres précédents. Certes, Allah est envers ses serviteurs parfaitement connaisseur de leur cas, de leur subtilité, de leur état et clairvoyant. Après avoir dit ça, Allah Azza wa Jal dit: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. Écoutez bien. Puis, nous avons fait hériter du livre à ceux que nous avons élus parmi nos serviteurs. Vous savez que quand Allah Azza wa Jal emploie cette forme-là, il ne parle que de lui. Quand Allah dit nahnu dans le Coran, nous, il n'est pas en train de parler de plusieurs. Il ne parle que de lui, mais c'est une façon de parler indiquant sa grandeur. Subhanahu wa ta'ala, nous. Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset: puis nous avons fait hériter du livre à ceux que nous avons élus parmi nos serviteurs. Qui sont-ils? Voici leur description. Premièrement, faminhum zalimun li nafsi. Parmi eux, celui qui a causé du tort à sa personne. Deuxièmement, wa minhum muqtasid. Il y a parmi eux l'économe. Troisièmement, wa minhum sabiqun bil khayrat bi idhnillah. Celui qui devance les autres dans le bien par la permission d'Allah. Dhalika huwa al fadlu al kabir. Telle est la grande grâce. Jannatu adnin يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. Puis il parle de ces gens-là qui habiteront des paradis des jardins d'Éden dans lesquels ils entreront, où ils seront parés de bijoux en or, de perles, et dont les vêtements seront faits de soie. Ces gens-là diront: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah qui nous a dissipé toutes les afflictions. إن ربنا لغفور شكور. Certes, notre Seigneur est très pardonneur, très reconnaissant. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal a montrer les trois catégories de ses serviteurs. Premièrement, celui qui cause du tort à sa personne. Deuxièmement, l'économe. Troisièmement, celui qui dévance tous les autres dans le bien. On a vu les deux. Celui qui est économe, c'est celui qui accomplit les obligations et délaisse ses interdits. Il se contente que de ça. Et c'est très bien, déjà. Il y a celui qui devance dans le bien, il ajoute aux obligations les bonnes actions recommandées. Et celle-ci, la troisième, c'est celui qui se cause du tort à lui-même. Qui est-il? Celui qui cause du tort à lui-même. L'imam ibn al-Sirdi rahimahullah nous dit فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ بِالْمَعَاصِي أَلَّتِي دُونَ الْكُفْرِ. C'est celui qui commet des péchés en dessous de la mécréance. Donc, il s'agit d'un musulman, d'un croyant, qui accomplit des obligations, mais peut-être qu'il en délaisse d'autres. Il délaisse des péchés, mais peut-être qu'il en commet d'autres. Il n'est pas comme l'économe. L'économe accomplit ses obligations et délaisse les interdits de manière complète. Mais lui, le dhalim li nafsi, l'injuste envers sa personne, il fait des actions obligatoires et en délaisse d'autres. Ou alors, il délaisse des interdits, et en commet d'autres. Et qu'est-ce que vous remarquez? Je vous invite à bien méditer dans ce verset-là. Dans le sens du verset, Allah Azza wa Jal dit « Puis nous avons fait hériter du livre à ceux que nous avons élus parmi nos serviteurs. » Concentrez-vous bien sur la tournure du verset. Je répète, « Puis nous avons fait hériter du livre à ceux que nous avons élus parmi nos serviteurs. » Qui sont ces serviteurs-là? Celui qui s'est fait du tort à lui-même, l'économe, et l'autre qui devance les gens dans le bien. Subhanallah. Il se fait du tort à lui-même, mais il fait partie des serviteurs élus d'Allah, Azza wa Jal. Comment cela se fait-il? Parce qu'il n'associe pas à Allah. Il n'adore pas un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Dès lors que tu es muwahhid, la tushriku billahi shay'a, tu n'associes rien à Allah azza wa jal, tu entres dans le cercle des élus d'Allah azza wa jal, bien qu'entre eux il y ait des disparités. Tu ne seras pas au degré le plus haut, mais tu en feras partie. On remarque une deuxième chose. Regardez qui a été cité en premier. Et qui a été cité en dernier? Subhanallah. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. Il y a parmi eux celui qui s'est fait du tort à lui-même. Il a été cité en premier, alors qu'il est le moindre dans les degrés. Ensuite, il y a وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدْ, l'économe. Et ensuite, وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ, celui qui devance les autres dans le bien. Subhanallah. Nous, on aurait cité celui qui dévance les autres dans le bien, n'est-ce pas? Il y a une très grande sagesse dans cette subtilité. Pourquoi celui qui se fait du tort à lui-même a été cité en premier dans ces trois catégories de serviteurs d'Allah Azza wa Jal? Allahu Akbar. Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahimahullahu ta'ala répond à cette question. Et il dit que c'est pour cette raison que certains savants sont d'avis que le verset suscitant le plus la miséricorde d'Allah, l'espoir en la miséricorde d'Allah Azza wa Jal est ce verset-là. Parce qu'Allah a cité celui qui cause du tort à sa personne en premier afin qu'il ne désespère pas de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal tant qu'il n'associe rien à Allah. Tant qu'il est serviteur d'Allah Azza wa Jal. Les savants se sont intéressés. Quel est le verset, à la question suivante, quel est le verset qui ferait susciter le plus la miséricorde d'Allah, qui développerait en nous le plus grand espoir qu'Allah nous fasse miséricorde? Ils ont cité plusieurs versets, parmi lesquels celui-là, et ils ont dit, que c'est celui-ci, que c'est celui-là justement, parce que il cause du tort à sa personne et il est cité en premier parmi les serviteurs d'Allah. Pourquoi celui qui devance les autres dans le bien est cité en dernier, à votre avis? Et pourquoi Allah Azza wa Jal dit « وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ » Et parmi eux, il y a celui qui devance les autres dans le bien, écoutez, « بِإِذْنِ اللَّهِ » par la permission d'Allah. Parce que il ne faut pas être trompé quand tu fais des bonnes actions. Il a été cité en dernier. Et on a bien dit que ce qu'il a pu faire est le fruit de la volonté d'Allah pour lui. Il a été favorisé par Allah Azza wa Jal. Il n'a pas fait indépendamment du bien qu'Allah lui a donné. Alors, il doit être modeste et ne pas s'enfler d'orgueil et penser qu'il mérite d'être meilleur que tel ou tel, car Allah qui l'a guidé est aussi capable de l'égarer. Allahu Akbar, les subtilités du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, l'allié d'Allah est celui qui accomplit les obligations et délaisse les interdits, et qui les fait suivre par les actions recommandées. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Allah Azza wa Jal dit « Hatta uhibba » jusqu'à ce que je l'aime. Il est aimé d'Allah. « Fa'idha ahbabtu » et quand je l'aime, « Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih » je deviens son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main par laquelle il empoigne, il attrape, sa jambe par laquelle il marche. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si tu es aimé d'Allah Azza wa Jal, il t'accordera une réussite, un degré de réussite tel que tu n'écouteras que ce qui plaît à Allah. Tu ne regarderas que ce qui plaît à Allah. Tu ne toucheras avec ta main que ce qui plaît à Allah. Et tu n'iras avec ta jambe quand tu marcheras que vers les endroits agréés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est grandiose. Ainsi, pour être préservé de toucher, de voir, d'écouter ou d'aller vers ce qui est interdit d'Allah Azza wa Jal, tu dois te rapprocher d'Allah par les obligations et t'efforcer de les faire suivre par les actions recommandées. Alors Allah t'aimera. Et ensuite, il t'accordera ce que tu lui demanderas. Wala in sa'alani la u'tiyanna. Et s'il me demande, c'est-à-dire il me demande quoi que ce soit, la u'tiyanna, assurément je lui donnerai. Wala in ista'adhani la u'idhanna. Et s'il cherche ma protection, très certainement je lui accorderai. Combien parmi nous souhaiterait obtenir telle et telle chose? Le chemin est clair. Tu dois demander à Allah Azza wa Jal cette chose-là pour qu'il te la donne, car c'est lui qui la possède. Tu n'as pas d'enfant, il peut t'en accorder, subhanahu wa ta'ala, si tu lui demandes, après avoir fait tout pour être son allié. Tu n'as pas une bonne santé? Deviens l'allié d'Allah et demande-lui, il te guérira. Tu es dans le besoin? Deviens l'allié d'Allah et demande-lui, il t'accordera. Subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite. Car Allah est capable de donner ce qu'il veut, à qui il veut, quand il veut, comme il veut, où il veut. Subhanahu tabaraka wa ta'ala. Et s'il demande ma protection, très certainement, je le protégerai. Wallahi, ce récit est un récit explicite et il contient beaucoup de fawaïd. Certaines ont été énoncées par le Cheikh Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, je vais vous les citer, c'est-à-dire les leçons à tirer de ce récit. Premièrement, le fait d'être ennemi d'un des alliés d'Allah fait partie des péchés majeurs. Parce qu'Allah Azza wa Jal ne déclare la guerre que pour un péché majeur. Deuxièmement, la preuve de l'existence des alliés d'Allah. On ne peut pas le renier. C'est affirmé par le Coran et la Sunna. Al-Sheikh ibn Uthaymin rahimahullah dit وَلَكِنَّ الشَّأْنَ كُلَّ شَأْنِي تَحْقِيقُ الْمَنَاطِي بِمَعْنَى مَنْ هُوَ الْوَلِي. Mais le sujet, le profond du sujet, c'est de répondre à la question qui est l'allié d'Allah? Et comment on devient l'allié d'Allah? En le prétendant? Hein, comme ceux qui disent je n'ai plus besoin de faire la prière dans les certains degrés de certaines croyances erronées, eh bien, leurs soi-disant alliés, leurs supposés alliés, disent que eux n'ont plus besoin de faire la prière. Parce que ça y est, ils ont pour eux atteint la certitude au sujet duquel Allah Azza wa Jal a dit « Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin » et adore ton Seigneur jusqu'à ce que vienne à toi la certitude. Ils disent « J'ai atteint le rang de la certitude, le niveau de la certitude, donc j'ai adoré Allah jusqu'à atteindre ce rang, je suis maintenant déchargé de cette adoration. » Allahu Akbar. Question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour vous, n'a donc pas atteint ce niveau de certitude, puisqu'il a adoré Allah jusqu'à la mort. Ou alors c'est vous qui êtes dans l'erreur et qui ne comprenez pas ou faites mine de ne pas comprendre ce verset qui en réalité signifie la constance dans l'adoration jusqu'à ce que la mort décrite comme étant la certitude vienne à toi. C'est ça qui est voulu. Ainsi, l'allié d'Allah Azza wa Jal est celui qui adore Allah, qui a foi en lui et fait preuve de piété et qui l'adore subhanahu wa ta'ala comme il a légiféré. On ne prend donc aucun intermédiaire en matière d'adoration. Quand on demande à quelque chose, c'est à Allah Azza wa Jal. Et on ne dit pas qu'on doit passer par tel ou tel, car sinon, notre demande ne pourra même pas être exaucée. Subhanallah. Une fois, m'a traversé l'esprit une pensée. Et je me suis dit, comment peut-on délaisser Allah Azza wa Jal dans l'invocation? Celui qui pourtant est au-dessus du ciel, et aller solliciter à la place une créature défunte en dessous de la terre. Allahu Akbar. Ceux qui agissent ainsi ne comprennent pas l'islam. Troisièmement, Allahu Azza wa Jal est décrit par le fait de déclarer la guerre à certains qui commettent les péchés qui la causent. Donc, Allah Azza wa Jal déclare bel et bien la guerre à certains pécheurs. Quatrièmement, Allah est décrit par l'amour. On dit bien qu'Allah Azza wa Jal a cet attribut al-mahabba, l'amour. Et cet amour-là varie dans ses niveaux. La preuve en est la parole وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّ افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Mon serviteur ne s'est jamais rapproché de moi par quelque chose qui me soit plus aimé que ce que je lui ai rendu obligatoire. Donc il y a d'autres choses qui lui sont moins aimées. Elles sont aimées de lui, mais moins que celles-ci qui lui sont plus aimées. Donc Allah est décrit par l'amour, et cet amour-là n'est pas au même degré, mais il répond à la chose qui est aimée. Cinquièmement, les bonnes actions nous font rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, comme le dit le Cheikh Ibn Uthaymin, alayhi rahmatullah, tu le ressens dans tes adorations. Parfois, tu fais des adorations avec la présence du cœur, avec une force dans ta sincérité, dans ta véracité, et tu ressens quelque chose que tu n'aurais pas ressenti avec la même adoration dans une autre situation. Ça nous est tous arrivé. par exemple une invocation, une prière qu'on a pu faire un jour, dans laquelle on s'est senti bien mieux que la même prière un autre jour. Ibn al-Uthaymeen a dit « وَهَذَا لَا يُدْرِكُهُ إِلَّا الْمُوَفَّقُونَ » Et cela n'est atteint que par ceux qui se sont vus assistés par Allah. وَإِلَّا فَمَا أَكْثَرَ الَّذِينَ يُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَيَصُومُونَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ لَا يَشْعُرُ بِقُرْبِهِ مِنَ اللَّهِ. Car autrement, très nombreux sont ceux qui prient, dépensent des aumônes, jeûnent, mais beaucoup d'entre eux ne ressentent pas qu'ils se rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, qu'Allah nous en préserve. Il dit « Wa shu'uru al-'abdi bi qurbihi min Allah la shakka annahu sayu'athiru fi sayrihi wa manhajihi » Et le ressenti que le serviteur a, qu'il est en train de se rapprocher d'Allah, sans aucun doute, aura un impact dans sa vie et dans son comportement. Nous sommes au mois de Ramadan, on le sait tous. Il y a beaucoup de gens qui ne font que s'abstenir de manger et de boire, du lever du soleil jusqu'au coucher. Lorsque Ramadan est terminé, ils sortent du mois de Ramadan dans le même état dans lequel ils sont entrés dans ce mois. Ils n'ont rien ressenti. Il y a les prières du Tarawih. Peut-être qu'ils ne sont venus à aucune de ces prières de Tarawih. Allahu Akbar. Pourquoi ? Parce qu'ils ne ressentent pas la saveur de l'adoration. Parce qu'ils ne goûtent pas à la splendeur de la ibada, à l'honneur d'aller se prosterner pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, les bonnes actions te rapprochent d'Allah quand tu associes à celle-ci la présence du cœur et la sincérité. Sixièmement, les ordres et interdits ou les ordres d'Allah sont de deux catégories. Al-fara'id, al-nawafil, les obligations et les actions recommandées. Septièmement, les actions sont diverses ou alors sont différentes dans leur mérite, que ce soit dans la nature même de l'action ou dans la catégorie de l'action. Dans la nature, c'est-à-dire l'action en elle-même, la nature, est-ce qu'il s'agit d'actions obligatoires ou recommandées ? Eh bien, dans la nature de l'action, nous disons que les actions obligatoires sont meilleures et plus méritoires que les actions recommandées. Ensuite, dans la catégorie, la prière, dans la catégorie des actions qui sont obligatoires, est meilleure que les autres actions qui sont obligatoires. Et même dans les actions elles-mêmes, dans une seule et même action, il y a des différences. Une prière obligatoire qui est accomplie par une personne bien concentrée avec la présence du cœur, avec la sincérité, avec l'espoir en Allah, la crainte d'Allah, avec la dévotion, est meilleure que cette même prière obligatoire accomplie par une personne qui n'a pas autant de foi dans son cœur que la première personne. Huitièmement, l'encouragement à faire les actions recommandées, puisque Allah Azza wa Jal nous dit « Hatta uhibbah » jusqu'à ce que je l'aime. Plus tu fais les actions recommandées, plus tu es susceptible de gagner l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. À condition bien sûr que ces actions soient conformes à la législation d'Allah Azza wa Jal. Neuvièmement, que le fait de faire des bonnes actions en abondance, ou alors l'abondance des bonnes actions, est une cause pour se faire aimer d'Allah. Parce que Allah Azza wa Jal a dit « Hatta uhibba, jusqu'à ce que je l'aime. C'est-à-dire, tu fais des bonnes actions, tu fais des bonnes actions et tu rajoutes, tu rajoutes, tu rajoutes, tu rajoutes et tu arrives à te faire aimer par Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une explication de hatta, cet outil grammatical linguistique qui soit nous indique le fait de continuer jusqu'à arriver ou alors que le simple fait de faire nous fait nous être aimés, fait que nous sommes aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. À condition bien sûr que cela soit fait conformément à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, nous dit le Cheikh Ibn Uthaymeen, la prière qui nous interdit le mal et la turpitude, ce n'est pas n'importe quelle prière. Celui qui fait une prière dans laquelle il n'accorde aucune importance, dans laquelle il n'est pas là, dans laquelle son cœur n'est pas vivant, il ne faut pas s'étonner après qu'il continue à commettre le mal ou les turpitudes, parce qu'il n'a pas accompli la prière dont Allah a parlé, qui interdit les turpitudes et le mal. Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, je ne dis pas ça pour vous faire désespérer, mais plutôt pour vous encourager à faire les adorations avec perfection. Rahimahullah ta'ala. Dixièmement, on va s'arrêter, inshallah. Dixièmement, que quand Allah aime un serviteur, il ajuste ses paroles, son regard, son oui, sa main et l'aide et ne fait que ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est extrêmement grandiose. Parce que si Allah t'aime subhanahu wa ta'ala, il va te détourner du haram. Tu ne toucheras pas au haram. Tu ne l'écouteras pas. Tu ne le regardes pas. Tu n'y toucheras pas. Parce que Allah t'aime subhanahu wa ta'ala. Fais-toi donc aimer d'Allah. Beaucoup se disent, je ne comprends pas, je n'arrive pas à délaisser tel péché, je n'arrive pas à revenir à telle obligation, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Fais-toi aimer par Allah subhanahu wa ta'ala et tu verras que étape par étape et progressivement, il t'écartera, il t'éloignera de ce qui pourrait contre toi provoquer son courroux et sa colère subhanahu wa ta'ala. Onzièmement, que quand Allah azza wa jal aime un serviteur, il répond à ses demandes et lui accorde ses souhaits. Douzièmement, la grandeur des alliés d'Allah, parce qu'Allah prend leur défense. Treizièmement, et c'est la fin, que prendre un allié d'Allah en ennemi est un péché gravissime et fait partie des péchés majeurs. As'alullah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula أن يجعلنا من أوليائه الصالحين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا